Gardez-moi le secret sur cette affaire, dit le parfumeur. Ah, ce Dick Zandro, il revient, je le croyais perdu. La conférence d'Alexandre Crotta et du magistrat dura longtemps. On envoya chercher le président de la Chambre des notaires, on transporta partout César comme un paquet, il ne bougeait pas et ne disait mot. Vers 7 heures du soir, Alexandre Crotta ramena le parfumeur chez lui. L'idée de comparaître devant Constance rendit du ton à César. Le jeune notaire eut la charité de le précéder pour prévenir Madame Birotteau que son mari venait d'avoir une espèce de coup de sang. « Il a les idées troubles, » dit-il en faisant un geste employé pour peindre l'embrouillement du cerveau. « Il faudrait peut-être le saigner ou lui mettre les sangsues. »« Cela devait arriver, » dit Constance à 1000 lieues d'un désastre. « Il n'a pas pris sa médecine de précaution à l'entrée de l'hiver et il se donne depuis 2 mois un mal de galérien comme s'il n'avait pas son pain gagné. » César fut supplié par sa femme et par sa fille de se mettre au lit, et l'on envoya chercher le vieux docteur Audry, médecin de Birotteau. Le vieux Audry était un médecin de l'école de Molière, grand praticien, et ami des anciennes formules de l'apothicairerie, droguant ses malades, ni plus ni moins qu'un médicastre, tout consultant qu'il était. Il vint, étudia le faciès de César, ordonna l'application immédiate de sinapisme à la plante des pieds, il voyait les symptômes d'une congestion cérébrale. « Qui a pu lui causer cela ?» dit Constance. « Le temps humide !» répondit le docteur, à qui Césarine vint dire un mot. Il y a souvent obligation pour les médecins de lâcher sciemment des niaiseries, afin de sauver l'honneur ou la vie des gens bien portants qui sont autour du malade. Le vieux docteur avait vu tant de choses qu'il comprit à demi-mot. Césarine le suivit sur l'escalier en lui demandant une règle de conduite. Du calme et du silence, puis nous risquerons des fortifiants quand la tête sera dégagée. Madame César passa 2 jours au chevet du lit de son mari, qui lui parut souvent avoir le délire. Mis dans la belle chambre bleue de sa femme, il disait des choses incompréhensibles pour Constance, à l'aspect des draperies, des meubles et de ses coûteuses magnificences. « Il est fou !» disait-elle à Césarine en un moment où César s'était dressé sur son séant et citait d'une voix solennelle les articles du code de commerce par bribes. « Si les dépenses sont jugées excessives, ôtez les draperies !» Après 3 terribles jours, pendant lesquels la raison de César fut en danger, la nature forte du paysan Tourangeau triompha. Sa tête fut dégagée. Monsieur Audry lui fit prendre des cordiaux, une nourriture énergique et... Après une tasse de café donnée à temps, le négociant fut sur ses pieds. Constance, fatiguée, prit la place de son mari. « Pauvre femme, dit César quand il la vit endormie. Allons, papa, du courage. Vous êtes un homme si supérieur que vous triompherez. Ce ne sera rien. Monsieur Anselme vous aidera. » Césarine dit d'une voix douce ces vagues paroles que la tendresse adoucit encore et qui rendent le courage aux plus abattus, comme les chants d'une mère endorment les douleurs d'un enfant tourmenté par la dentition. « Oui, mon enfant, je vais lutter, mais pas un mot à qui que ce soit au monde, ni à Popinot qui nous aime, ni à ton oncle Pierrot. Je vais d'abord écrire à mon frère. Il est, je crois, chanoine, vicaire d'une cathédrale. Il ne dépense rien, il doit avoir de l'argent. À 1000 écus d'économie par an, depuis 20 ans, il doit avoir 100 000 francs. En province, les prêtres ont du crédit. » Césarine, empressée d'apporter à son père une petite table et tout ce qu'il fallait pour écrire, lui donna le reste des invitations imprimées sur papier rose pour le bal. « Brûle tout ça !» cria le négociant. « Le diable seul a pu m'inspirer de donner ce bal. Si je succombe, j'aurai l'air d'un fripon. Allons, pas de phrases. » Lettre de César à François Birotteau. « Mon cher frère, je me trouve dans une crise commerciale si difficile que je te supplie de m'envoyer tout l'argent dont tu pourras disposer, fallut-il même en emprunter. Tout à toi, César. Ta nièce Césarine, qui me voit écrire cette lettre pendant que ma pauvre femme dort, se recommande à toi et t'envoie ses tendresses. » Ce post-scriptum fut ajouté à la prière de Césarine qui porta la lettre à Raguet. « Mon père, dit-elle en remontant, voici Monsieur Lebas qui veut vous parler. » « Monsieur Lebas ! » s'écria César, effrayé comme si son désastre le rendait criminel. « Un juge ?»« Mon cher monsieur Birotteau, je prends trop d'intérêt à vous, » dit le gros marchand drapier en entrant. « Nous nous connaissons depuis trop longtemps, nous avons été élus tous 2 juges la première fois ensemble. Pour ne pas vous dire que gigonnais, un usurier, a des effets de vous passer à son ordre, sans garantie, par la maison Claparon. Ces deux mots sont non seulement un affront, mais encore la mort de votre crédit. « Monsieur Claparon désire vous parler, » dit Célestin en se montrant. « Dois-je le faire monter ?»« Nous allons savoir la cause de cette insulte, » dit Lebas. « Monsieur, » dit le parfumeur à Claparon en le voyant entrer, « voici Monsieur Lebas, juge au tribunal de commerce et mon ami. »« Ah, monsieur et Monsieur Lebas, » dit Claparon en interrompant. « Je suis enchanté de la circonstance, Monsieur Lebas du tribunal. Il y a tant de Lebas, sans compter les hauts et les bas. » « Il a vu, reprit Birotteau en interrompant le bavard, les effets que je vous ai remis, et qui, disiez-vous, ne circuleraient pas. Il les a vus avec ses mots, sans garantie. »« Eh bien, » dit Claparon, « ils ne circuleront pas, en effet. Ils sont entre les mains d'un homme avec qui je fais beaucoup d'affaires, le père Bidot. Voilà pourquoi j'ai mis sans garantie. S'ils avaient dû circuler, vous les auriez fait à son ordre directement. Monsieur le juge va comprendre ma situation. Que représentent ces effets ? Un prix d'immeuble, payé par qui ? Par Birotteau. Pourquoi voulez-vous que je garantisse Birotteau par ma signature ? Nous devons payer, chacun de notre côté, notre part de ce dit prix. Or, n'est-ce pas assez d'être solidaire vis-à-vis de nos vendeurs ? Chez moi, la règle commerciale est inflexible. Je ne donne pas plus inutilement ma garantie que je ne donne quittance d'une somme à recevoir. Je suppose tout. Qui signe, paie. Je ne veux pas être exposé à payer trois fois. Trois fois ? Dit César. « Oui, monsieur, » reprit Claparon. « Déjà j'ai garanti Birotteau à nos vendeurs, pourquoi le garantirais-je encore aux banquiers ? Les circonstances où nous sommes sont dures. Roguin m'emporte 100 000 francs. Ainsi, déjà ma moitié de terrain me coûte 500 000 au lieu de 400 000 francs. Roguin emporte 240 000 francs à Birotteau. Que feriez-vous à ma place, monsieur Lebas ? Mettez-vous dans ma peau. Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, plus que je ne connais monsieur Birotteau. Suivez bien. Nous faisons une affaire ensemble, par moitié. » Vous apportez tout l'argent de votre part, moi, je règle la mienne en mes valeurs. Je vous les offre, vous vous chargez par une excessive complaisance de les convertir en argent. Vous apprenez que Claparon, banquier, riche, considéré, j'accepte toutes les vertus du monde, que le vertueux Claparon se trouve dans une faillite pour 6 000 000 à rembourser. Irez-vous en ce moment-là même mettre votre signature pour garantir la mienne ? Vous seriez fou ! Eh bien, monsieur Lebas, Birotteau est dans le cas où je suppose Claparon. Ne voyez-vous pas que je puisse alors payer aux acquéreurs comme solidaire, être tenu de rembourser encore la part de Birotteau jusqu'à concurrence de ses effets, si je les garantissais, et sans avoir... « À qui ?» demanda le parfumeur en interrompant. « Et sans avoir sa moitié de terrain, » dit Claparon, sans tenir compte de l'interruption, « car je n'aurai aucun privilège. Il faudrait donc encore l'acheter. Donc je puis payer trois fois. » « Rembourser à qui ?» demandait toujours Birotteau. « Mais au tiers porteur, si j'endossais et qu'il vous arriva un malheur !»« Je ne manquerai pas, monsieur, » dit Birotteau. « Bien, » dit Claparon, « vous avez été juge, vous êtes habile commerçant, vous savez que l'on doit tout prévoir. Ne vous étonnez donc pas que je fasse mon métier. »« Monsieur Claparon a raison, » dit Joseph Lebas. « J'ai raison, » reprit Claparon, « raison commercialement. Mais cette affaire est territoriale. Or, que dois-je recevoir, moi ? De l'argent. » Car il faudra donner de l'argent à nos vendeurs. Laissons de côté les 240 000 francs que M. Birotteau trouvera, j'en suis sûr, dit Claparon en regardant le bas. Je ne venais vous demander la bagatelle de 25 000 francs, dit-il en regardant Birotteau. 25 000 francs, s'écria César en se sentant de la glace au lieu de sang dans les veines. Mais, monsieur, à quel titre ? Eh, mon cher monsieur, nous sommes obligés de réaliser les ventes par devant nos terres. Or, relativement au prix, nous pouvons nous entendre entre nous. « Mais avec le fisc, votre serviteur, le fisc ne s'amuse pas à dire des paroles oiseuses. Il fait crédit de la main à la poche, et nous avons à lui cracher 44 000 francs de droits cette semaine. J'étais loin de m'attendre à des reproches en venant ici, car, pensant que ces 25 000 francs pouvaient vous gêner, j'avais à vous annoncer que par le plus grand des hasards, je vous ai sauvé. Quoi ? » dit Birotteau, en faisant entendre ce cri de détresse auquel aucun homme ne se trompe. « Une misère ! Les 25 000 francs d'effets sur divers que Roguin m'avait remis à négocier. Je vous en ai crédité sur l'enregistrement et les frais dont je vous enverrai le compte. Il y a la petite négociation à déduire. Vous me redevrez 6 000 ou 7 000 francs. »« Tout cela me semble parfaitement juste, » dit Lebas. « À la place de monsieur, qui me paraît très bien entendre les affaires, j'agirai de même envers un inconnu. » « Monsieur Birotteau ne mourra pas de cela, » dit Claparon. « Il faut plus d'un coup pour tuer un vieux loup. » J'ai vu des loups avec des balles dans la tête courir, et comme, par Dieu, comme des loups !»« Qui peut prévoir une scélératesse semblable à celle de Roguin ?» dit le bât, autant effrayé du silence de César que d'une si énorme spéculation étrangère à la parfumerie. Il s'en est fallu de peu que je ne donnasse quittance de 400 000 francs à monsieur, dit Claparon, et j'étais fumé. J'avais remis 100 000 francs à Roguin la veille, notre confiance mutuelle m'a sauvé. Que les fonds fussent à l'étude, ou fussent chez moi jusqu'au jour des contrats définitifs, la chose nous semblait à tous indifférente. Il aurait mieux valu que chacun gardât son argent à la banque jusqu'au moment de payer, dit le bât. Roguin était à la banque pour moi, dit César, mais il est dans l'affaire, reprit-il en regardant Claparon. Oui, pour un quart, sur parole, répondit Claparon. Après la sottise de lui laisser emporter mon argent, il y en a une plus paumée, ce serait de lui en donner. S'il m'envoie mes 100 000 francs et 200 000 autres pour sa part, alors nous verrons. Mais il se gardera bien de me les envoyer pour une affaire qui demande 5 ans de peau bouille avant de donner un premier potage. S'il n'emporte, comme on le dit, que 300 000 francs, il lui faut bien 15 000 livres de rente pour vivre convenablement à l'étranger. Le bandit ! Eh hey, mon Dieu ! Une passion a conduit la Roguin, dit Claparon. Quel est le vieillard qui peut répondre ne pas se laisser dominer, emporté par sa dernière fantaisie ? Personne de nous, qui sommes sages, ne sait comment il finira. Un dernier amour, eh, c'est le plus violent. Et si nous sommes gobés, n'est-ce pas notre faute ? Comment ne sommes-nous pas défiés d'un notaire qui se mettait dans une spéculation ? Tout notaire, tout agent de change, tout courtier faisant une affaire est suspect. La faillite est pour eux une banqueroute frauduleuse. Ils iraient en cour d'assises. Ils préfèrent alors aller dans une cour étrangère. Je ne ferai plus pareille école. Eh bien, nous sommes assez faibles pour ne pas faire condamner par contumace des gens chez qui nous sommes allés dîner, qui nous ont donné de beaux bals, des gens du monde, enfin. Personne ne se plaint. On a tort. Grand tort, dit Birotteau. La loi sur les faillites et sur les déconfitures est à refaire. Si vous aviez besoin de moi, dit le bât à Birotteau, je suis tout à vous. Monsieur n'a besoin de personne, dit l'infatigable bavard, chez qui Du Tillet avait lâché les écluses après y avoir mis l'eau, car Claparon répétait une leçon qui lui avait été très habilement soufflée par Du Tillet. Son affaire est claire, la faillite de Roguin donnera 50% de dividende à ce que le petit Crottat m'a dit. Outre ce dividende, monsieur Birotteau retrouve 40 000 francs que son prêteur n'avait pas, puis il peut emprunter sur ses propriétés. Or, nous n'avons à payer 200 000 francs à nos vendeurs que dans 4 mois. D'ici là, monsieur Birotteau paiera ses effets, car monsieur ne devait pas compter sur ce que Roguin a emporté pour les acquitter. Mais quand même monsieur Birotteau serait un peu serré, eh bien, avec quelques circulations, il arrivera. Le parfumeur avait repris courage en entendant Claparon analyser son affaire et la résumer en lui traçant, pour ainsi dire, son plan de conduite. Aussi, sa contenance devint-elle ferme et décidée, et conçut-il une grande idée des moyens de cet ancien voyageur. Du Tillet avait jugé à propos de se faire croire victime de Roguin par Claparon. Il avait remis 100 000 francs à Claparon pour les donner à Roguin, qui les lui avait rendus. Claparon inquiet jouait son rôle naturel. Il disait à quiconque voulait l'entendre que Roguin lui coûtait 100 000 francs. Du Tillet n'avait pas jugé Claparon assez fort. Il lui croyait encore trop de principes d'honneur et de délicatesse pour lui confier ses plans dans toute leur étendue. Il le savait incapable de le deviner. « Si notre premier ami n'est pas notre première dupe, nous n'en trouverions pas une seconde, » dit-il à Claparon, le jour où, recevant des reproches de son proxénète commercial, il le brisa comme un instrument usé. Monsieur le bât et Claparon s'en allèrent ensemble. « Je puis m'en tirer, » se dit Birotteau. « Mon passif, en effet, à payer, s'élève à 235 000 francs, à savoir 75 000 francs pour ma maison et 175 000 francs pour les terrains. Or, pour suffire à ces paiements, j'ai le dividende Roguin qui sera peut-être de 100 000 francs. Je puis faire annuler l'emprunt sur mes terrains, en tout 140. Il s'agit de gagner 100 000 francs avec l'huile céphalique et d'atteindre, avec quelques billets de service, ou par un crédit chez un banquier, le moment où j'aurai réparé la perte et où les terrains arriveront à leur plus-value. Une fois que dans le malheur, un homme peut se faire un roman d'espérance par une suite de raisonnements plus ou moins justes, avec lesquels il bourre son oreiller pour y reposer sa tête, il est souvent sauvé. Beaucoup de gens ont pris la confiance que donne l'illusion pour de l'énergie, et peut-être l'espoir est-il la moitié du courage. Aussi la religion catholique en a-t-elle fait une vertu ? L'espérance n'a-t-elle pas soutenu beaucoup de faibles, en leur donnant le temps d'attendre les hasards de la vie. Résolu d'aller chez l'oncle de sa femme exposer sa situation avant de chercher des secours ailleurs, Birotteau ne descendit pas la rue Saint-Honoré jusqu'à la rue des Bourdonnais sans éprouver des angoisses ignorées et qui l'agitèrent si violemment qu'il crut sa santé dérangée. Il avait le feu dans les entrailles. En effet, les gens qui sentent par le diaphragme souffrent là, de même que les gens qui perçoivent par la tête ressentent des douleurs cérébrales. Dans les grandes crises, le physique est atteint, là où le tempérament a mis pour l'individu le siège de la vie. Les faibles ont la colique, Napoléon s'endort. Avant de monter à l'assaut d'une confiance, en passant par-dessus toutes les barrières de la fierté, les gens d'honneur doivent avoir senti plus d'une fois au cœur l'éperon de la nécessité, cette dure cavalière. Aussi Birotteau s'était-il laissé éperonner pendant 2 jours avant de venir chez son oncle. Il ne se décida même que par des raisons de famille. En tout état de cause, il devait expliquer sa situation au sévère quincaillier. Néanmoins, en arrivant à la porte, il ressentit cette intime défaillance que tout enfant a éprouvée en entrant chez un dentiste. Mais ce défaut de cœur embrassait la vie dans son entier au lieu d'embrasser une douleur passagère. Birotteau monta lentement. Il trouva le vieillard lisant le constitutionnel au coin de son feu, devant la petite table ronde où était son frugal déjeuner, un petit pain, du beurre, du fromage de brie et une tasse de café. « Voilà le vrai sage, » dit Birotteau, en enviant la vie de son oncle. « Eh bien, » lui dit Pirou en ôtant ses besicles, « j'ai su hier au café David l'affaire de Roguin, l'assassinat de la belle Hollandaise, sa maîtresse. J'espère que, prévenu par nous qui voulions être propriétaires réels, tu es allé prendre quittance de Claparon. »« Hélas, mon oncle, tout est là. Vous avez mis le doigt sur la plaie. »« Non. »« Ah, bouffre, tu es ruiné, » dit Pierrot, en laissant tomber son journal que Birotteau ramassa, quoique ce fût le constitutionnel. Pierrot fut si violemment frappé par ses réflexions que sa figure de médaille et de style sévère se bronza comme le métal sous un coup de balancier. Il demeura fixe, regarda sans la voir la muraille d'en face au travers de ses vitres, en écoutant le long discours de Birotteau. Évidemment, il entendait et jugeait, il pesait le pour et le contre, avec l'inflexibilité d'un minos qui avait passé le Styx du commerce en quittant le quai des Morfondus pour son petit 3e étage. « Eh bien, mon oncle, » dit Birotteau, qui attendait une réponse après avoir conclu par une prière de vendre pour 60 000 francs de rente. « Eh bien, mon pauvre neveu, je ne le puis pas, tu es trop fortement compromis. Les Ragon et moi, nous allons perdre chacun nos 50 000 francs. Ces braves gens ont vendu par mon conseil leurs actions dans les mines de Vortchin. Je me crois obligé en cas de perte, non de leur rendre le capital, mais de les secourir, de secourir ma nièce et Césarine. Il vous faudra peut-être du pain à tous, vous le trouverez chez moi. » « Du pain, mon oncle ? Eh bien oui, du pain. » Vois donc les choses comme elles sont. Tu ne t'en tireras pas. De 5 600 francs de rente, je pourrais distraire 4 000 francs pour les partager entre vous et les Ragon. Ton malheur arrivé, je connais Constance. Elle travaillera comme une perdue. Elle se refusera tout, et toi aussi, César. Mais tout n'est pas désespéré, mon oncle. Je ne vois pas comme toi. Je vous prouverai le contraire. Rien ne me fera plus de plaisir. Birotteau quitta Pierrot sans rien répondre. Il était venu chercher des consolations et du courage, il recevait un second coup, moins fort à la vérité que le premier, mais au lieu de porter sur la tête, il frappait au cœur. Le cœur était toute la vie de ce pauvre homme. Il revint après avoir descendu quelques marches. « Monsieur, dit-il d'une voix froide, Constance ne sait rien, gardez-moi le secret au moins, et priez les Ragon de ne pas m'ôter chez moi la tranquillité dont j'ai besoin pour lutter contre le malheur. » Pierrot fit un signe de consentement. « Du courage, César, » ajouta-t-il. « Je te vois fâché contre moi, mais plus tard tu me rendras justice en pensant à ta femme et à ta fille. » Découragé par l'opinion de son oncle, auquel il reconnaissait une lucidité particulière, César tomba de toute la hauteur de son espoir dans les marais fangeux de l'incertitude. Quand, dans ces horribles crises commerciales, un homme n'a pas une âme trempée comme celle de Pierrot, il devient le jouet des événements. Il suit les idées d'autrui, les siennes, comme un voyageur court après des feux follets. Il se laisse emporter par le tourbillon au lieu de se coucher sans le regarder quand il passe ou de s'élever pour en suivre la direction en y échappant. Au milieu de sa douleur, Birotteau se souvint du procès relatif à son emprunt. Il alla rue Vivienne, chez Derville, son avoué, pour commencer au plus tôt la procédure, dans le cas où l'avoué verrait quelque chance de faire annuler le contrat. Le parfumeur trouva Derville enveloppé dans sa robe de chambre en molleton blanc, au coin de son feu, calme et posé comme tous les avoués rompus aux plus terribles confidences. Birotteau remarqua pour la première fois cette froideur nécessaire qui glace l'homme passionné, blessé, pris par la fièvre de l'intérêt en danger et douloureusement atteint dans sa vie, dans son honneur, dans sa femme et ses enfants, comme l'était Birotteau en racontant son malheur.